Il y a une annonce ministérielle d'évaluation nationale en début CP, qui est aussi en début de CE1, qui démarre aujourd'hui, le 17 septembre, et qui doit se poursuivre. Il y a un délai de passation jusqu'à début octobre. Les évaluations en soi, sur un modèle prédéterminé, ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, évidemment, c'est d'évaluer ces élèves, mais on peut les concevoir. Et ce qui est important, c'est qu'elles soient à l'usage des apprentissages et destinées essentiellement aux élèves.
Alors vous dites justement que votre liberté d'enseignant est oubliée au profit d'un pilotage finalement gouvernemental.
Absolument, on a là des évaluations nationales qui sont conçues avec énormément de problèmes sur les contenus, avec certains items qui vont mettre les élèves en échec, avec des temps de passation qui sont très très courts, et puis ensuite pour une application avec une saisie informatique sans correction, qui dépossède totalement les enseignants de leurs fonctions et pour lesquels une machine va analyser les résultats à leur place et dont on ne sait pas quelle utilité pédagogique ça aura dans la classe. Le problème, c'est que c'est très chronophage, ça fait passer beaucoup de temps à la rentrée, ça fait démarrer la rentrée à des enfants qu'on peut mettre en difficulté de façon artificielle et pour aucune utilité dans la classe, avec aussi une conception de l'enseignement et du métier d'enseignant qui est plutôt méprisante, c'est-à-dire que on les dépossède de leur métier et du coup on s'inquiète sur les objectifs réels de ces évaluations.
La FSU propose un refus de saisie de ces tests. Vous croyez que ce mouvement va prendre ?
C'est possible, puisque les collègues... En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on a eu beaucoup d'annonces, mais en fait, on n'avait pas les contenus et on n'avait pas tous les éléments en main. Et puis la rentrée est également chargée de beaucoup d'organisations. Du coup, il y avait beaucoup de questionnements dans les salles des maîtres entre les collègues. Mais petit à petit, ils commencent à découvrir des éléments de plus en plus concrets qui les heurtent, qui les font réagir. Et le rôle du SNUPP, c'est bien entendu de leur proposer une action collective.
Alors maintenant, le dédoublement des CP et des CE1, vous le critiquez ?
Alors, en soi, le dispositif est intéressant, c'est-à-dire que les enseignants qui sont dans les classes de CP et CE1 concernés trouvent plutôt intéressant de pouvoir avoir un groupe d'élèves réduit, d'avoir plus de temps pour les aider individuellement, donc forcément, ça a un intérêt pour eux. Mais la difficulté, c'est que on n'est pas dans une vision globale, c'est-à-dire que malheureusement, ce dispositif n'est pas suffisamment financé. Et ça a un coût en poste énorme qui, du coup, crée des difficultés dans d'autres domaines et dans la qualité de ce qui est apporté dans l'éducation. Dans les Bouches-du-Rhône, on a chiffré à environ 380 postes nécessaires pour dédoubler les CP en REP+ et en CE1. Et la dotation de rentrée de cette année était d'un peu plus de 200 postes. Donc ça a affecté la carte scolaire. Donc il y a une augmentation démographique. Donc le nombre d'ouvertures de classes en lien avec ça n'a pas été suffisant. Il y a des postes de remplaçants en nombre qui ont été fermés, ce qui fait que les collègues malades sur les périodes courtes sont de moins en moins remplacés. Le dispositif qui existait auparavant de plus de mètres que de classe, qui était intéressant, a été totalement supprimé. Et on pense au SNUPP que, puisqu'on avait des moyens et qu'on peut prendre des moyens pour l'école, il y avait aussi la possibilité de baisser les effectifs dans tous les niveaux de classe. Là, en éducation prioritaire, les CP et les CE1 sont, on va dire, privilégiés, mais les autres niveaux de classe, notamment en maternelle et puis sur les classes de CE2 jusqu'au CM2, on voit un effet mécanique d'augmentation des effectifs dans ces classes d'âge.